Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui de la malbouffe. Comment manger, éviter la malbouffe et manger pour rester en bonne santé. Ce sera le premier sujet que nous allons aborder dans cette émission. Okapi Service avec nos invités. Nous allons recevoir tout à l'heure Madame Espérance Belli, nutritionniste diététicienne à Food Nutrition for Life au Vulnerable. Madame Espérance, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue dans cette émission. On recevra également monsieur Mutamba Tapoy, nutritionniste. Il sera également de la partie pour nous parler de la malbouffe. Des questions et préoccupations à ces sujets, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Comment entretenir des bonnes relations avec sa belle famille? Ce sera le deuxième sujet de cette émission de la vie au quotidien. Joséphine Galula, présidente de l'ONGD H Forum de la femme ménagère, et Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, seront nos invités. Vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Alain Goy à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui de comment manger pour rester en bonne santé. Eh bien, la malbouffe, vous le savez, est devenue un véritable problème de santé publique. De nombreux citadins prennent plaisir à manger des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. Fast-food, hamburgers, shawarma, pizza et boissons gazeuses très sucrées connaissent un succès fulgurant au point de modifier le contenu de l'assiette des nombreux Congolais. Selon les experts, la consommation excessive de ces denrées constitue un risque majeur pour la santé. Diabète, cholestérol, obésité, hypertension, etc. sont devenus des termes courants. Alors que faire pour manger afin de rester pour manger et rester en bonne santé? Eh bien, nous allons parler de cela avec nos invités. Nous disons merci à tous les internautes qui ont déjà réagi nombreux par rapport à cette question. Nous allons accueillir un autre invité, Madame Espérance Belli. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes diététicienne, alors nutritionniste. Et dites-nous pourquoi aujourd'hui les gens préfèrent manger trop gras, ils mangent des histoires trop salées ou trop sucrées. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, les gens préfèrent manger trop gras parce que ils pensent que avoir une masse est en fait une bonne santé, alors que c'est pas nécessairement une bonne santé quand on a une grosse masse. En RDC, on pense que quand on a de l'argent, quand on est maintenant équilibré dans la vie, on doit grossir, alors que c'est pas nécessairement une bonne chose pour la santé. Nous avons la malnutrition par excès, qui est aussi une pathologie, et sans compter la malnutrition par carence. Mais nous pensons plus que la malnutrition par carence, le kwashiorkor, les marasmes, c'est ce qui est une pathologie, alors que la malnutrition par excès aussi, les diabètes, et toutes les autres pathologies sont aussi néfastes et peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé.
Voilà, mais certains disent que c'est peut-être le mode de vie. On est citadin avec toute la publicité qu'il y a autour des pizzas, des shawarma, hamburgers, et bien tout le monde veut manger ça.
Bon, d'autres personnes aussi, ce qui est vrai, ils n'ont pas assez de connaissances par rapport à ça. Ils pensent que le luxe, c'est manger pizza, le luxe, c'est manger trop gras, le luxe, c'est avoir de la sucrerie sur la table, alors que tout ça ne nous apporte que plus de méfaits que de bienfaits. Et aussi, c'est ce qui est à la base de l'obésité chez beaucoup de personnes, parce qu'ils pensent que ça, quand ils vivent maintenant dans le luxe, ils doivent plus manger ce qui est supermarché, plus manger ce qui est restaurant, et aussi ne pas tenir compte de ce qu'ils mettent dans leur assiette comme alimentation, leurs valeurs nutritionnelles, et c'est ce qui fait que la plupart des gens sont gros, ils ont une masse, et ce sont plus les conséquences de ce qu'eux ils mangent que de ce qu'eux ils pensent aussi. Donc moi je trouve que l'ignorance aussi joue un grand rôle par rapport à ça. Beaucoup de gens n'ont pas assez de connaissances par rapport aux valeurs nutritionnelles des aliments et les conséquences que ceux-ci peuvent avoir sur l'état nutritionnel des gens.
On voit par exemple dans certaines rues de Kinshasa, dans les Malewa, où vous trouvez quelqu'un qui prend des pâtes, les macaronis, et puis au-dessus vous avez une omelette, et puis de la mayonnaise au-dessus, et puis bon, et elle s'empiffre avec un gros coca à côté. Et,
voilà.
Et ben voilà, est-ce que ça c'est une bonne façon de manger?
Bon, la notion de la qualité alimentaire, nombre de Congolais n'ont pas cette notion-là. Parce que quand on parle de l'équilibre plutôt, l'équilibre alimentaire, on voit pas seulement la quantité, mais on voit aussi le facteur qualité. Les deux éléments doivent être réunis pour parler d'un équilibre alimentaire. Beaucoup de personnes, ils pensent que soit apporter beaucoup ou manger beaucoup, c'est ça, manger mieux. Alors que dans l'équilibre alimentaire, nous avons l'équilibre qualitatif et l'équilibre quantitatif. Avant, on parlait de notion de trois groupes des aliments pour être sûr d'être dans la qualité. Il y avait les aliments constructeurs, les aliments énergétiques et les aliments protecteurs. Mais actuellement, il n'y a pas eu vraiment un changement par rapport à cette façon ou cette appellation. Mais il y a eu un petit ajout par rapport à ça. On parle actuellement des aliments à 4 étoiles pour être sûr que vous mangez la qualité. Alors, il faudrait que dans un repas, qu'on réunisse ces éléments-là, on est sûr que nous avons la qualité d'abord. Mais en dehors de ces facteurs qualité, il y a aussi les facteurs quantité qui jouent un rôle important. Parce que la quantité, c'est ce qui définit aussi l'énergie que le corps va encaisser après avoir consommé tous ces repas-là. On peut se dire que nous avons bien mangé, mais nous avons mangé, par exemple, soit le feuille de manioc, on a mis une grosse boule de foufou et c'est fini avec un feuille de manioc préparé sec comme ça. On n'a pas tenu compte des autres éléments, entre autres arachides à mettre dedans, ou soit un petit poisson, soit les chenilles, qui apportent chacune un élément important constituant cet équilibre alimentaire-là. Alors, on peut se dire que nous mangeons bien, mais ce que nous avons dans notre assiette, c'est plus les calories. Ou ce que nous avons dans notre assiette, c'est plus les lipides. C'est pas un équilibre. Alors, il faudrait que les gens comprennent que, en dehors de la quantité, il y a les facteurs qualité. Et aussi, ceux qui tiennent compte de la qualité doivent aussi tenir compte que, en dehors de la qualité, il y a les facteurs quantité. Ces deux éléments doivent être réunis pour être rassurés que nous sommes vraiment dans l'équilibre alimentaire. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une idée par rapport à leur état nutritionnel. C'est pas que la nutrition ne concerne que les personnes malades, les personnes obèses ou les personnes diabétiques ou les malnutries par carence des enfants, coche encore les enfants marasmes et tout le reste. Non, la nutrition concerne toutes les personnes. Donc que ce soit les personnes en bonne santé ou les personnes qui sont malades, la nutrition concerne tout le monde. Parce que on dit, il y a un adage qui dit que ton aliment soit ton premier médicament, soit ton premier remède. Plus tu manges mauvais, plus tu es exposé à développer certaines pathologies. Et aussi, plus tu manges bien, plus tu es équilibré, plus tu te préserves de certaines pathologies aussi. Tu vois que il y a certaines personnes qui tombent rarement malades, qui sont en très bon état nutritionnel, qui sont en très bonne santé, qui sont vifs, actifs et toujours travailleurs, parce que quand ils tiennent compte de ces facteurs-là, dans les aliments, il y a tous les nécessaires qui maintiennent la personne en bonne santé. Ce sont des aliments qui produisent nos anticorps. Ce sont des aliments qui font que nos anticorps soient plus actifs et capables de lutter contre certaines pathologies. Donc, toute cette connaissance-là, elle est importante pour éviter que dans l'assiette de la personne, qu'on retrouve n'importe quoi et que la personne soit obligée de se dire, bon, je mange seulement et je mange bien parce que j'ai mis les œufs, j'ai mis la macaroni. Est-ce que je réunis cet équilibre-là? Est-ce que la qualité était bonne et la quantité aussi était respectée? Donc ce sont ces facteurs-là qui sont importants et que les gens doivent aussi connaître pour enfin définir leur alimentation.
Aujourd'hui, on parle plus des fast-food, donc ça veut dire des repas rapides qui sont préparés rapidement. Est-ce qu'on y accorde tous les soins possibles pour prendre le temps de bien cuire et d'offrir à la clientèle des repas bien faits ou bien préparés?
Bon, c'est pourquoi il y a des enquêtes qui doivent aussi être menées par rapport à la qualité de ce que les gens préparent là, dans ces fast-foods là. Il y a plus, des fois il y a plus le volet ce qui doit être cuit rapidement, mais ce qui doit être cuit rapidement est de bonne qualité, parce que en dehors aussi du facteur qualité par rapport aux nutriments, il y a d'autres éléments qui peuvent endommager cette qualité des aliments, entre autres, quand l'aliment n'est pas bien cuit, par exemple, certains légumes qu'on retrouve dans ces légumes, certains microbes qui n'ont pas été suffisamment cuits au feu, par exemple, et que la personne qui s'est dit « j'ai mangé équilibré parce que j'ai mis un fruit » ou « j'ai mis des légumes crus » et j'ai fait un équilibre alimentaire. Alors que dans ces légumes-là, les légumes qui n'ont pas été suffisamment lavés, par exemple, qui a exposé la personne, les légumes avec beaucoup d'engrais chimiques et qu'on n'a pas suffisamment lavé, qu'on n'a pas suffisamment cuit au feu, ou soit qu'on n'a pas suffisamment préparé avant que la personne puisse consommer ses légumes à cet état-là. On expose encore plus la personne, non? Parce que il va bien manger, oui. Il a mangé équilibré, oui, mais la qualité de cet équilibre, elle l'a exposé à présenter d'autres maladies, ce qui n'est pas aussi bien. C'est pourquoi certaines études doivent être menées sur le marché, surtout auprès de ces restaurateurs de fast-food-là, pour voir s'ils respectent vraiment le mode de cuisson de certains aliments et aussi l'hygiène liée à cette alimentation-là, parce que ces facteurs-là sont importants pour être rassurés de la bonne qualité de ces aliments que nous livrons aux gens. Mais par rapport aux équilibres, si j'ai dû encore revenir sur ça, nous offrons, bon, généralement, les restaurateurs, ils sont plus dans le commerce que dans le volet nutrition. Parce qu'ils se disent, moi, je dois faire un truc pour être commercialisé. Alors que le commerce, c'est bien beau, mais si on voit aussi l'idée de bien nourrir ces gens, pas seulement de bien alimenter, mais de bien nourrir ces personnes-là, ce serait mieux que de seulement alimenter pour avoir l'argent. Bon, je fais rapidement, je suis en train de faire le shawarma avec des choux qu'on a peut-être pas suffisamment lavé, des choux qu'on a juste pris comme ça, nettoie pas pour autant être nettoyé, on enlève juste la couverture, là, on coupe, on met la mayonnaise dedans, alors qu'il faudrait peut-être chauffer à une certaine température, mettre un peu de l'eau chaude superficiellement, ou soit des vinaigres qui sont des fois des antiseptiques pour essayer un peu de détruire certains microbes parce que ça vient de la terre. Tu vois que tous ces éléments jouent et ont un impact très négatif par rapport à la santé. Nous devrions plus informer certaines, donc la communauté, à prendre conscience de ce qu'eux, ils consomment. Avant d'acheter un aliment, tu es rassuré de la qualité que tu as donnée. Est-ce que tu as les connaissances par rapport à son équilibre? Tu veux acheter un shawarma? Oui. Est-ce que ces shawarmas-là, est-ce qu'ils ont respecté les conditions d'hygiène pour le préparer? Il y a certains shawarmas récemment, je venais de manger, j'ai acheté dans un supermarché. Oui. Ils sentent qu'ils avaient déjà fait ces mélanges depuis la matinée. Moi, j'ai acheté le soir. C'était même plus abordable, donc c'était même plus intéressant à manger. Alors, tu as mangé, j'ai mangé, mais quelques minutes après, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Tu sens que c'était pas d'abord de la bonne qualité. Le souci du vendeur, c'était d'avoir de l'argent. Mais le souci du vendeur par rapport à la qualité de ce qu'il donne aux consommateurs,
c'est pas son problème.
Il n'avait pas ces soucis-là. Voilà.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Comment manger pour rester en bonne santé? Vous avez des questions et préoccupations, eh bien, composez le 081 890 63 94 pour participer à cette émission.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, comment manger pour rester en bonne santé? Serge Kalobia, vous êtes à Kindu et Jeff Ngoy à Kananga. Bonjour Serge.
Bonjour Radio Capi, bonjour Jody et bonjour à tous les invités, les auditeurs qui nous suivent à partir de la République démocratique du Congo et ailleurs.
Quelle est votre question, Serge?
Oui, la question vraiment, elle est, en fait, l'émission elle est un peu vraiment intéressante. Je voudrais d'abord demander à madame si elle a déjà entendu parler de cet adage. L'adage qui dit l'homme noir ne mange pas à sa faim, parce que l'homme blanc, lui, quand il mange tout à la table. Il y a les poulets, il y a les chocolats, au moins 5 à 10 kilogrammes par jour, l'homme blanc mange. Mais l'homme noir, lui, ne finit toujours même pas un kilo. Est-ce que cet adage-là est vrai, qu'il faut manger même jusqu'à 5 kilos? On mange tout, la viande, les haricots, les tout sur la table. Est-ce vrai, elle a entendu parler de ça? Parce que généralement, on se fait des blagues entre amis, on se dit que non, voilà mon frère. Vous ne mangez pas, c'est l'homme blanc qui connaît manger. Parce que vous voyez, nous, on ne mange que les riz et les sombés. Ailleurs, on mange tout à la fois. Parce que selon les explications de madame, elle était en train de dire que non, naturellement, on ne peut pas tout mélanger parce que ça risque de poser problème si je l'ai bien suivi. Maintenant, la question que je voulais aussi poser à madame, est-ce que, est-il vrai que quand il fait 18 heures, il ne faut plus manger beaucoup? Parce que les autres disent que non, voilà, pour éviter tout ça, quand il fait déjà 18 heures, il ne faut plus manger beaucoup car ça peut, vous pouvez tomber malade, ça peut vous aider à grossir, même si vous n'en avez pas envie. Ça, c'était la première question. La seconde question, qu'est-ce qu'il faut généralement manger chez nous, ici, par exemple, à Kindu, où on n'est pas à mesure de se payer? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas manger 10 000 francs. Je ne suis pas à mesure de réaliser 10 000 francs à manger par jour. Qu'est-ce que madame peut me conseiller de manger quotidiennement cette
Serge, et qu'est-ce que, Serge, qu'est-ce que vous mangez régulièrement là-bas à Kindu?
Bon, ce que nous mangeons ici régulièrement chez nous, c'est les riz, hein, les foufous,
les sombés,
les manioques, les sombés, les tilapia. Mmh. La vache, la viande de vache, rares sont les cas, les gens qui mangent la chèvre et les moutons parce qu'elle est réservée aux plus offrants, les gens qui ont beaucoup de moyens. Maintenant, je voudrais poser la question, à l'autre question, madame. Qu'est-ce que généralement nous pouvons manger si chez nous, je vous donne la sélection de ce que nous mangeons. Qu'est-ce que nous pouvons manger pour être en bonne santé?
Bien, aussi, merci.
La question des restaurants, non, je n'ai pas fini. Aussi la question des restaurants. Chez nous, ici, chez nous, pili, les restaurants de fortune sont partout. Par exemple, je vous donne comment est-ce qu'on fait pour préparer, parce que je vous donne l'expérience parce que je mange aussi. Les mamans là qui nous préparent des restaurants de fortune préparent cette nourriture là la nuit. Donc les haricots sont préparés la nuit, par exemple à 18h, 16h, on commence déjà à préparer tout ça. Et puis ils conservent là dans leur manière de conserver. Les matins, on nous présente ça et on mange. Est-ce que ces restaurants-là, vous mangez, vous sentez qu'il y a des goûts différents, c'est comme si ça a pris d'autres goûts d'amère ou comment, mais nous mangeons quand même parce que nous avons faim. Est-ce que ces conditions-là de préparer la nourriture la nuit pour encore donner ça aux gens les matins, est-ce que ça peut poser problème sur la santé?
Bien, donc, merci Serge. Merci Serge. Oui, rapidement alors.
Concernant le malbouffe, est-ce que un enfant qui tombe malade parce qu'il a mangé beaucoup la nuit, parce que chez nous ici régulièrement, les gens tombent malades, surtout quand nous sommes à la période des moissons de maïs. L'enfant a mangé beaucoup le maïs et les arachides, il tombe malade la nuit. Comment on fait pour soulager cet enfant? Merci beaucoup.
Jeff Ngoy de Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'alimentation?
Oui, le sujet est éducationnel. Les questions que moi je me pose, monsieur Yodi, c'est que nous nous demandons d'abord quoi manger, quand manger et à quelle quantité qu'il faut manger. Ce sont des questions qui peuvent nous aider à bien équilibrer ce que nous devons manger par jour. Monsieur Yodi, l'expérience que nous avons ici à Kananga, vous verrez que la plupart des hommes
Ils mangent les bidias.
Oui, la plupart des hommes qui sont ici à Kananga, qui ont un peu de moyens, aiment beaucoup plus être ventrés. Ils aiment avoir de gros ventres. Mmh. Quand ils ont des gros ventres là, ils pensent que les gens ont perdu. Quand je suis pasteur avec un gros ventre, c'est du miracle. Ils mangent beaucoup. Alors, ils ne savent pas savoir qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce que cela peut apporter sur leur santé. Vous avez des hommes qui vous prennent même des C4, qui vous prennent des médicaments qui sont appétisants.
Pour avoir beaucoup mangé et avoir les gros ventres.
Pardon ?
Et avoir les gros ventres à la fin.
Eh oui, avoir les gros ventres à la fin. Ils pensent que quand ils ont des gros ventres comme ça, les gens vont avoir peur d'eux et ils sont beaucoup plus craints. Hein, c'est de l'esthétique pour eux. Or, quand vous avez plus de gros ventres, il y a plus de graisse et vous êtes beaucoup plus exposé aux maladies métaboliques. Mais la question que nous posons, M. Jody, nous n'avons pas assez de revenus parce que la nutrition, pour équilibrer l'alimentation et être en bonne santé, il faut avoir beaucoup, avoir des moyens et respecter les principes nutritionnels.
Et là-bas à Kananga, les gens mangent les histoires comme les shawarma, les hamburgers, pizza et autres.
Oui, mais ici à Kananga, si vous n'avez pas mangé le foufou par jour, vous allez dire que je n'ai rien mangé. Même si on vous donnait du riz et les haricots, vous n'allez pas sentir que vous avez mangé.
À la fin, il faut le foufou.
Oui, à la fin de tout, il faut toujours le foufou. Vous avez même les restaurants chez nous ici, Monsieur Jody. Les mamans qui vous préparent les haricots, dans 50 minutes, les haricots sont déjà bien cuits.
On vous met
même des bicarbonates là pour que ça puisse se nourrir. Bon, on ne comprend pas. On mange des choses parce que on a faim, mais on ne sait pas équilibrer normalement ce qu'on mange.
D'accord.
On n'a pas de notion. On n'est pas informé. C'est ça au moins ce qui pose problème. Alors la question à la dame qui est l'invitée du jour, je voudrais savoir, est-ce que quand quelqu'un n'a pas assez de moyens, on peut bien respecter le principe de nutrition? C'est ça ma question, M. Jody.
D'accord, merci. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, Daniel, bonjour à l'invité, c'est Pierrot Mpagna, j'appelle depuis la ville de Lubumbashi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Pierrot?
Jody, moi, j'appelle comme un professionnel de santé aussi, parce que le sujet est trop pertinent du fait que à Lubumbashi, les jeunes filles et les jeunes garçons, nous avons constaté que 1/10 acceptent les conseils médicaux et surtout des nutritionnistes. Et ce sont les sujets que nous enseignons plus souvent chez les femmes enceintes, parce que à part seulement les conséquences, c'est la personne qui les consomme. Nous avons trouvé qu'il y a des diabètes gestationnels et qui exposent à des accouchements difficiles. Et les enfants qui naissent parfois aussi avec des maladies telles que les diabètes. Alors, les diabètes juvéniles. Alors moi, je voulais d'abord donner une expérience. Il y a un magazine qui avait écrit que après des études aux États-Unis en 2017, on avait trouvé qu'un malade sur deux meurt de la maladie métabolique. Plus souvent, c'était lié à une suralimentation. Alors, nous avons constaté aussi que ici à Lubumbashi, par exemple, jadis le diabète sucré, les hypertensions AVC, d'autres maladies diaboliques étaient une maladie qu'on trouvait chez les gens friqués, chez les personnes qui avaient des moyens. Alors, ces personnes-là, pourquoi on disait ça? Parce que ces personnes-là avaient des moyens de manger les repas occidentaux. C'est-à-dire...
Quand vous parlez des repas, c'est quoi les repas occidentaux?
C'est ça que nous parlons aussi. Et vous allez trouver qu'ici, dans les fast-food, on trouve des chips, on trouve des pizzas, il y a des sucreries. Alors, ce genre de choses...
Des chocolats là, et autres.
Des chocolats et autres. Ce genre d'aliments-là étaient réservés seulement aux gens friqués qui avaient de l'argent. Nous, qui n'avions pas de l'argent, on pouvait avoir ces repas où? C'est pourquoi on disait que le diabète était une maladie de friqués. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi on trouve cette maladie devient une maladie ordinaire? C'est parce que aujourd'hui, les jeunes filles, vous avez votre fiancé pour vous faire montrer que moi, j'ai de l'argent. vous l'amenez dans des fast-food, dans des take-away, et vous consommez que ce genre de repas-là. C'est ce que nous avons trouvé, qu'il faut commencer à faire une éducation nutritive. Pour que cela peut nous aider peut-être à récupérer certains. Alors, j'aimerais poser la question pour ne pas prendre trop de temps. J'ai trois questions que je voulais poser pour que notre invité puisse éclairer aussi la plupart des jeunes qui ne parviennent pas à nous écouter dans les éducations sanitaires que nous les donnons. La première question était de savoir, nous avons trouvé que le malbouffe est aussi addictive à une drogue. C'est la première question que je voulais poser. Est-ce que le malbouffe est aussi addictive à une drogue? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si la nourriture n'a pas un bon goût et que je ne vais pas manger cette nourriture-là parce qu'elle n'a pas un bon goût, et la nutritionniste là nous dit que il ne faut pas manger, il faut manger bio, éviter les choses trop sucrées, trop salées et trop épicées. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que cette nourriture trouve un bon goût? C'est la deuxième question.
Troisième question.
La troisième question. À quoi sert le fast-food, le take-away des restaurants qui nous importent des aliments occidentaux là? Y a-t-il des différences entre ce genre de restaurants à des hôpitaux? Y a-t-il une différence entre ce genre de restaurants à un hôpital? Parce qu'on nous pousse à faire des maladies métaboliques. Je dis et je vous remercie.
Bien. Glody, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à madame l'invité. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à l'alimentation?
Oui, merci pour la parole accordée. Je pense que madame l'invitée a beaucoup explicité les choses, mais je suis un peu dans l'imbroglio des savants. Moi, j'ai juste des petites questions que je vais poser à madame l'invitée. Dans notre pays, nous n'avons pas vraiment les cultures d'éducation alimentaire. Je ne sais pas. Moi, je pose la question à madame l'invitée. Quel est le genre de comportement que nous devons adapter? Parce que généralement, moi, j'étais avec des végétariens. Les végétariens vous disent, non, voilà, il faut manger bio. Il faut pas manger les histoires comme ça, ça nuit la santé, des histoires comme ça. Et de l'autre côté aussi, on vous dit non, il faut pas être végétarien, comment un homme normal vous mangez à tout moment des herbes comme comparé aux animaux, c'est pas du tout normal, il faut manger la viande, des histoires comme ça. Alors, on est dans des confusions, on ne sait pas. Est-ce qu'il est important vraiment d'être végétarien? Parce que il y a ceux qui disent que non, être végétarien, c'est bien, d'être végétarien, vous allez dire des histoires comme ça. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que, en suivant l'intervention de madame l'invitée, elle a beaucoup explicité. Alors, elle est en train de baser sur de manger naturel. Alors, moi, je pose la question. Est-ce qu'il est important aussi d'être végétarien ou de ne pas être végétarien? Si madame l'invitée nous expliquait. Et nous explique aussi la différence qui se trouve entre un végétarien et quelqu'un qui mange en désordre. Il nous donne aussi les avantages. Et quel est le comportement que nous pouvons suivre? Je pense que ça peut aider les uns et les autres. Ce que j'ai voulu partager pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous remercie.
Bien, merci. Bien, beaucoup de questions. Madame Espérance Belli, vous avez certainement suivi toutes ces préoccupations des auditeurs.
Oui.
On va commencer par Serge de Kindu qui a dit... d'après lui, les blancs mangent 5 kilos, 10 kilos. Est-ce que nous également, on doit faire pareil?
Bon, c'est une théorie, ce qui est vrai. Parce que les blancs ne mangent pas seulement la quantité. Nous, en nutrition, nous avons appris l'équilibre alimentaire ou les bien manger chez les blancs, non? Parce que... D'abord, c'est quoi? Si on prend un exemple d'une femme de référence, on dit qu'une femme de référence, c'est une femme qui est âgée de tout au plus 30 ans, avec une taille d'environ 1m60. Pour que cette femme se dise qu'elle a mangé la quantité nécessaire de nutriments, ces nutriments doivent apporter en moyenne 2200 kilocalories. Ça veut dire que dans son équilibre-là, comme j'étais en train de parler, elle mange, elle fait l'équilibre alimentaire, mais le calcul doit naviguer autour de entre 2200 à 2500 kilocalories. Alors, c'est cet apport-là. Ça vient des aliments, non? Le 2500 kilocalories, par exemple, là, c'est fourni par les aliments. Si on prend l'exemple du monsieur dont il fait allusion, un blanc qui mange un poulet en entier, c'est plus d'un kilo. Alors qu'un kilo de poule, ça fournit combien de kilocalories? C'est plus de kilocalories. Et s'il accompagne encore, il ajoute un autre aliment d'accompagnement, ça ajoute encore cette valeur calorique-là. Alors, est-ce que c'est une bonne... Il a déjà vu un blanc manger tout un poulet et finir
un poulet en arrêtant. Tout ça, c'est des histoires que les gens racontent.
Ah, voilà, c'est ce que les gens racontent. Mais le problème, c'est que quand on a la notion de l'équilibre alimentaire, on calcule toujours l'apport calorique de chaque personne en une journée. Par exemple, moi qui a 1m60, mon apport calorique là ne peut pas dépasser 2500 calories. Donc du matin au soir, je devrais avoir tout au plus 2500 kilocalories pour se dire que la journée, j'ai respecté cette notion d'équilibre alimentaire. Alors dans les 2500 kilocalories là, nous les répartissons avec les repas que nous mangeons du matin au soir. Le petit déjeuner par exemple aura autant, les dîners aura autant, les soupers aura autant. Alors que nous connaissons notre habitude en RDC et par rapport aussi à la vie sociale que les gens mènent, c'est difficile d'avoir plusieurs repas. Et on voit que tout ce que la personne doit manger, que ce soit ce qu'il grignote, que ce soit ce qu'il mange comme repas normal, doit être dans cette fourchette-là, où doit fournir cette quantité de kilocalories-là. Alors, hormis cela, l'équilibre qualité, le fait de la qualité dont j'étais en train de faire allusion, nous avons le groupe de protéines animales. Dans le protéine animale, nous avons les œufs, le lait, la viande, le poisson, tout ce qui est d'origine animale. Il y a le protéine d'origine végétale. Les protéines d'origine végétale, nous les réservons dans tout ce que nous appelons les haricots dans toutes ses formes ou les légumineuses. Donc il y a les haricots, il y a les arachides, il y a les sésames, il y a le niébé, il y a encore quoi, tout ce qui nous procure de protéines, mais dans les végétaux, les légumineuses et autres. Les chenilles aussi, ça fait partie de protéines animales, disons. Et en dehors de ça, nous avons le fruit et les légumes qui constituent un autre groupe pour faire le 4 étoiles. Donc, le fruit et les légumes ont aussi leur rôle à jouer. Ici, on n'a pas spécifié tout le fruit, tous les légumes. Ils font un groupe parce que eux, ils apportent tout ce que nous appelons vitamines, éléments minéraux. Ils sont fournis dans le fruit et les légumes. Et hormis cela, nous avons les huiles. Donc, les huiles et nous avons aussi le sucre et l'eau. C'est cet équilibre-là, ces groupes, cette famille-là réunie qui constitue les 4 étoiles que nous appelons. Alors, il faudrait que dans un repas, qu'on puisse au moins ressortir chaque famille de ces aliments pour se dire que nous sommes dans la qualité, qu'on a mangé qualité. Il y a, par exemple, nous avons un peu de poisson. Mmh. On a préparé le pondu, on a mis les arachides dedans. Le pondu, c'est déjà les légumes. On a mis les arachides dedans, qui est une source de protéines végétales. Nous avons mis l'huile dedans et nous avons encore mis un peu de fruits. Donc, ça fait déjà cet équilibre-là. Les 4 étoiles se sont retrouvées dans ces repas-là. C'est pas qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se dire qu'on mange bien. Non. Ce que nous faisons comme travail, c'est de sensibiliser cette population-là à comprendre qu'ils peuvent bien manger avec le peu qu'ils ont. Il faudrait pas avoir des millions d'argent pour se dire qu'on mange bien. Non. Au Bandundu, par exemple, pendant la période des chenilles, nous avons les chenilles. C'est une source de protéines animales. Nous avons beaucoup de haricots qui fournissent dans le Bandundu. Nous avons le pondu, nous avons des légumes, nous avons les céréales, nous avons le foufou, nous avons l'huile. Est-ce que pour ça, il faut dépenser des millions? Est-ce que pour ça, il faut aller au restaurant pour se dire qu'on a mangé équilibré? Non. Mais au moins, que ces calculs-là puissent te fournir le minimum de calories nécessaires par rapport à ton âge, par rapport à ton poids, par rapport à ta taille.
Mais certains pensent que ces aliments-là, les chenilles, les pondous, ça c'est des histoires dépassées. Aujourd'hui, il faut manger les shawarmas, il faut le pizza, les hamburgers.
C'est complexe là, c'est ça aussi c'est qui nous tue. Parce que j'ai entendu un auditeur dire que... c'était la maladie des riches parce que les riches, ils mangeaient tout. Non, Non, le problème c'est quoi? Quand on commence à avoir un peu d'argent, quand on se dit que on est actuellement bien rémunéré, on veut catégoriquement changer le mode de vie. On mange plus le pondou, on mange plus le chenille, on doit maintenant aller dans des restaurants. Et aller au restaurant, en fait, plus cet équilibre-là, on est soit shawarma, soit ici, il y a gâteau, il y a tout ça. Et c'est ce qui constitue notre table au quotidien. Et alors, constituer cette table au quotidien, c'est ce qui fait aussi que tout puisse changer. Vous instaurez une nouvelle vie avec beaucoup plus de sucre, avec beaucoup plus de graisse. Et ça vous expose à faire toutes ces maladies-là. Donc, on change catégoriquement de mode de vie parce que nous avons déjà de l'argent et parce que les activités maintenant marchent bien. Il faudrait qu'on puisse avoir shawarma, gâteau et tout ça. Non. Vous pouvez m'aider avec d'autres questions.
D'accord.
J'avais vraiment pris à pied levé. J'ai pas eu le temps de... Oui. Je n'avais pas un stylo à côté. Alors, comme je devais intervenir, j'étais obligée.
Il n'y a pas de
souci.
Il y a
d'autres questions. Vous pouvez peut-être répéter pour que je puisse répondre par rapport à ça.
D'accord. Je vais lire quelques questions. Avant cela, je vais lire les réactions des internautes sur Facebook. Toto Mboyo, Alphonse nous dit, il faut manger bio et surtout éviter un régime alimentaire adapté au monde actuel, revoir les choses et recourir aux anciennes habitudes alimentaires. Patrick Kakouji, depuis Calémie, il faut manger bien et surtout éviter un régime alimentaire adapté au monde actuel, revoir les choses et recourir aux anciennes l'ancienne alimentation. Bernard Malumba, depuis le Kasaï central. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai fait ce constat ici dans ma province du Kasaï central. Les gens sont emportés par l'orgueil pour être vus par les autres qui sont riches, oubliants, qui mettent leur vie en péril. Mais nous leur demandons de revenir à notre régime naturel pour préserver la santé. Si vous voyez l'espérance de vie a diminué, c'est à cause de ce que nous mangeons. Alors tout à l'heure, Madame Espérance, il y a un auditeur de Kananga Jeff qui nous a dit là-bas à Kananga, il y a des gens, c'est pour eux une fierté d'avoir des gros ventres. Ils mangent à tout moment, n'importe comment, pour avoir un gros ventre. Et puis c'est un signe de réussite, ça vous attire le respect dans la société quand vous avez un gros bidon. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, ce qui est vrai, il y a certaines conceptions qui sont tellement mauvaises et qui tuent beaucoup de gens. C'est pas seulement au Kasaï, c'est pas seulement à Kananga. J'ai déjà été en Bujima également. C'est un peu cette philosophie là. On pense que avoir un gros ventre, c'est ça l'essence de responsabilité. C'est ça ce qui donne une bonne apparence. C'est ça ce qui prouve que nous avons une bonne vie. Non, nous n'avons pas une bonne vie parce que nous avons un gros ventre. Non. Si vous voyez même les gens les plus fortunés au monde, ils sont minces, hein. Et ils sont simples, ils paraissent pas en fait. Ils sont tellement simples que des fois pour les reconnaître, c'est difficile de les reconnaître. Alors, il faudrait peut-être que les gens comprennent que c'est vraiment la plus mauvaise idée que de se dire que avoir un gros ventre ou grossir quand on a maintenant de l'argent, c'est une bonne chose. Non, c'est la plus mauvaise idée. Les blancs, beaucoup de blancs riches sont maigres, disons, ils ont une bonne taille, ils sont pas gras. Ceux qui sont plus gras, ce sont des pauvres. Pourquoi? Parce que ils savent pas jouer sur leur aliment. Ils mangent ce qu'il y a. Mais la notion de la connaissance, c'est pas seulement avoir de l'argent, non. Mais bien utiliser le peu que nous avons à notre bénéfice. Bien les utiliser. C'est pourquoi nous, quand nous allons des fois en province, lors des éducations nutritionnelles, comme une personne l'avait soulevé, nous essayons d'inculquer aux mamans que ils ne sont pas obligés de nourrir leurs enfants seulement avec tout ce qu'on appelle les bouillies qui sont vendues dans les supermarchés, qui sont vendues en ville et tout. Non, on peut avoir le maïs qui est produit en RDC. On a l'huile de palme produite en RDC. On a le sucre que nous produisons avec nos cannes à sucre ici en RDC. Nous pouvons faire une très bonne bouillie équilibrée à l'enfant sans pour autant beaucoup trop dépenser. Mais cet enfant sera en très bonne santé parce que dans ces aliments bio, naturels, qui n'ont pas subi beaucoup des modifications avec des OGM, l'enfant reçoit des éléments phytochimiques qui sont capables de bien les protéger et de renforcer ses anticorps. Et ce sont ces genres de messages que nous essayons de partager avec les mamans pour qu'ils apprennent et qu'elles apprennent plutôt à bien utiliser ce qu'elles sont capables de produire localement et être en bonne santé. C'est pas que les facts sont ce qui prouve qu'on a la vie, non. Il y a des circonstances où on peut aller dans un restaurant. Par exemple, vous travaillez
et à 12h, vous ne pouvez pas rentrer à la maison pour manger, vous pouvez facilement partir au restaurant, acheter quelque chose, oui. Mais savoir aussi équilibrer ce que vous achetez. Mais c'est pas que ça doit devenir une habitude parce que j'ai l'argent. Aujourd'hui, je suis au restaurant, ma famille ne mange que au restaurant. Et même si on va au restaurant, on ne sait pas choisir ce qu'on doit manger. On doit manger shawarma, on doit manger hamburger, on doit manger tout ce qui est riche en graisse et tout le reste. On doit acheter des gâteaux, des cakes et tout. Non, c'est pas une preuve. Moi, je trouve que, en fait, excusez-moi les termes, c'est un peu une ignorance de la part de beaucoup qui les font en pensant que c'est ça la preuve qu'ils sont maintenant friqués ou c'est la preuve qu'ils sont maintenant dans un bon état social.
Oui. On va accueillir M. Moutamba Tapo. Il est aussi nutritionniste. M. Moutamba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'alimentation, comment manger pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, le monde moderne nous propose la malbouffe. Nous avons les take-away, nous avons les fast-food. Beaucoup de gens préfèrent les hamburgers, ils préfèrent les shawarma, les pizzas, chocolat, les boissons trop sucrées, trop salées et autres. Alors, dites-nous, comment éviter ces genres de nourriture et manger bio pour garder la santé et être toujours en bonne santé.
Je commence par saluer Madame Espérance qui a très bien intervenu et je salue aussi tous les auditeurs. La malbouffe, c'est vraiment le syndrome tout ce que nous faisons, de tous les gestes que nous faisons lorsque nous sommes en train de vouloir manger. Et généralement, la malbouffe est considérée du côté des abus ou des excès. Mais la malbouffe existe aussi dans les carences. Mais pour ce qui est des abus, j'appuie totalement ce que Madame Espérance a dit. Il faut éviter tous ces takeaway, tous ces chocolats, tout ça. C'est que il ne faut pas manger ça régulièrement ou chaque jour à longueur de journée. Il ne faut pas prendre des boissons sucrées à longueur de journée. Y a des gens qui pensent que en faisant ça, ils font bien. Mais malheureusement, hein, ils font ce que le feu le professeur Kandjingou disait, c'est avec nos dents que nous creusons notre tombe. Hein, c'est qu'ils mangent en espérant bien manger ou en pensant bien manger pendant qu'ils sont en train d'exagérer. Et avec ça, aller au grand marché. Bon, maintenant le grand marché est fermé. Allez là où les maléos se vendent. Vous trouvez le matin des grands messieurs, des mamans qui ont une carrure imposante, bon, qui viennent manger un petit déjeuner où ils commandent 4 œufs avec des sardines, ils prennent du beurre, du pain, des beignets.
Avez 4 œufs mélangés aux sardines et tout cela, ça vient couronner une montagne de pâtes ou de spaghettis.
Plus le pain et les beignets.
Voilà, et puis de la mayonnaise, au-dessus.
Et ils prennent ce qu'on appelle le mélanger. Vous connaissez le mélanger?
Non, je connais pas très bien le mélanger. C'est quoi?
C'est du thé mélangé au café. Ils prennent des gros gobelets. Ils pensent bien manger et ils arrivent à ce que vous avez dit, des ventres bedonnants, et même ils disent l'œuf colonial, et les mamans deviennent ce qu'on appelle les musiciens kilos, dont on parle moins maintenant. Mais toutefois, tout cela constitue ce qu'on appelle le lit de l'obésité. Or, depuis l'année 2000, l'OMS a dit l'obésité est une maladie qui doit être considérée en tant que telle. Malheureusement, ici chez nous, il y a des institutions qui refusent de reconnaître le traitement de l'obésité comme étant un traitement devant être remboursé. Vous comprenez? C'est que dans notre société, nous sommes incompris quand nous essayons d'expliquer ce que nous expliquons, ou alors il faut se mettre à parler pendant longtemps et voir certaines personnes qui s'écroulent pour que les autres comprennent que ce que nous avons dit était vrai.
Bien, Christian Politassi nous a écrit sur Facebook, il dit la malbouffe est un véritable problème de santé publique, surtout dans notre pays où nous avons la culture, l'habitude de copier ce qui s'est fait à l'étranger, sans oublier notre caractère extraverti de notre économie. Cette situation de la malbouffe a causé des dégâts énormes aux États-Unis et ailleurs. Alors l'importance pour nous de se servir de ces conséquences des autres pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais pour vaincre cet état des choses, plusieurs stratégies doivent être mises en exergue, notamment l'interdiction de l'importation de certains aliments susceptibles de causer des intoxications, la consommation avec modération de certains aliments jugés trop gras, trop sucrés ou trop salés, et encourager la multiplication et la consommation des aliments ou recettes locaux et bio, sans oublier la mise en place d'une cellule de communication alimentaire afin de procéder à des campagnes de sensibilisation chaque fois que les besoins vont se faire sentir. Madame Espérance, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, c'est une bonne idée ce qu'il a aussi évoqué. Et il y a aussi certaines notions que les gens ignorent, c'est aussi par rapport au sucre dans les aliments plutôt. Les diabétiques, par exemple, avant, on pensait que le miel, c'était le sucre idéal pour les diabétiques. Mais actuellement, cette hypothèse, il faudrait les prendre un peu avec beaucoup de mesures. Mmh. Parce que la nature de ces sucres qui est contenu dans les miels-là joue aussi un impact par rapport sur la glycémie que les autres sucres normaux. Pourquoi? Il y a avant, nous étions informés que donc nous savons que le miel contient du fructose, alors que actuellement les études prouvent que en dehors du fructose, il y a également du glucose. Le glucose qui est le sucre simple et le sucre qui augmente les pics de la glycémie chez toute personne. Et à combien plus forte raison chez un diabétique qui a déjà un problème par rapport à la sécrétion de l'insuline. Donc, dans certaines notions alimentaires, il faudrait que, comme le monsieur l'a dit, il faudrait que les gens soient vraiment sensibilisés et informés sur certaines notions alimentaires. Je suis diabétique, oui. On m'a demandé de prendre tel autre aliment, oui. Mais il y a aussi des notions liées à l'index glycémique des aliments, par exemple, que certains diabétiques ignorent. Il y a ces fruits ces fruits qu'on disait avant qui étaient bons, parce que généralement, les fruits sont bons pour les diabétiques. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles notions, on s'est dit qu'il y a des fruits à index glycémique élevé ou des aliments en général à index glycémique élevé. Quand la personne consomme cet aliment, directement, ça augmente le pic de la glycémie, ce qui fait que cette personne peut avoir une glycémie très haute et tomber soit dans le coma ou soit mourir. Alors, il faudrait que les gens apprennent à connaître les détails sur ces choses-là, à être informés. Si une sensibilisation serait une très bonne idée, et la sensibilisation à tous les niveaux, au niveau des médias, au niveau des écoles aussi, parce qu'il faudrait que, vous voyez, généralement les enfants, quand ils apprennent les choses bonnes, les bonnes choses au niveau de l'école primaire, au niveau de la maternelle, ils gardent et ils auront un peu, c'est là comme une fondation pour aider à l'avenir. Donc c'est vraiment important la sensibilisation par rapport aux notions alimentaires que beaucoup de gens ignorent. Il y a beaucoup de gens vraiment qui ignorent certaines notions alimentaires. Mmh. Ils sont sous-informés, c'est pourquoi ils font certaines choses.
Bien, merci Madame Espérance Belli. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, nous poursuivons cette émission. On va accueillir Justin de Fungurume. Bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Justin?
Oui. Je comprends bien qu'il y a un grand déséquilibre dans la thématique là de la nutrition, parce que au village il y a des gens qui n'ont pas l'accès à manger tout ce que vous êtes en train de détailler là, mais quand ils quittent le village pour aller en ville, peut-être à 30 ans, ils commencent à manger en fonction des rattrapages. Alors celui-là aussi peut être exposé rapidement au diabète ou quoi. Alors, je dis encore, il y a un professeur, mon professeur, qui m'avait donné cours de mathématiques. Il était mince, effiné, comme la fumée. Mais lui aussi, il est décédé. J'ai fait des enquêtes, ils m'ont dit qu'il était atteint de la diabète. Alors, je demande de m'éclaircir entre ces deux. Moi, j'étais déjà en retard. là où j'étais, et je change le milieu, la vie devient très favorable, je commence à manger pour le rattrapage. C'est comme si on était en course, en compétition.
rattrapage alimentaire.
Oui, parce qu'il y a, on nous dit, il y a même des gens qui se déplacent en Europe, on les trouve avec 30 ans de faim. Et ça se passe même aujourd'hui. J'ai même rédigé, on a rédigé même un document.
Merci Justin. D'accord, oui. Merci. On a retenu Monsieur Mutambatapoy. Il y a des gens qui étaient au village, qui mangeaient bien, mais arrivés en ville, ils veulent manger selon le mot de rattrapage alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet, Monsieur Mutambatapoy? Monsieur Mutamba, vous êtes là? Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. On va tâter le rappeler tout à l'heure. Il y a la question, voilà, de Justin, quelqu'un qui mangeait bien. Il y a également Piron Pagna qui nous dit, jadis, les diabètes et AVC étaient des maladies des riches parce que ces personnes avaient le moyen de manger les repas occidentaux, mais aujourd'hui, parce que c'était trop sucré, épicé, trop gras. Et puis, bah, aujourd'hui, les jeunes filles qui aiment les luxes préfèrent aller avec leurs petites amies dans les restos, au café, deux, trois fois la semaine, aller manger pizza, shawarma et autres dans le cadre de la modernité. Voilà, c'est ce que nous dit Piro depuis Lubumbashi. Yves Daniel Ngavan, depuis Kolwezi, nous dit qu'il soutient une alimentation saine et équilibrée. Il est important de manger sainement et de manière équilibrée. Évariste Katsongo, depuis Lopa, territoire de Njugu, en Ituri, ce problème a plusieurs causes, notamment la pauvreté qui frappe le peuple congolais, l'ignorance, la négligence, ainsi que d'autres problèmes de la vie. En effet, il est évident qu'on puisse mettre en place un système national de contrôle nutritionnel qui doit surtout être concentré dans les milieux ruraux où le problème semble être très dangereux. Imaginez la population, personne qui n'avait pas étudié et vit dans une région en conflit, elle saura comment est-ce qu'elle aura toutes ces informations. Voilà. Quelqu'un a proposé tout à l'heure qu'il y a besoin de sensibiliser beaucoup plus la population par rapport aux habitudes alimentaires. Merci à tous les internautes qui ont réagi sur Facebook par rapport à cette question de l'alimentation. Monsieur Mutambatapoy, il n'est plus en ligne. Nos invités sont plus là. Bon, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Merci à Monsieur Mutambatapoy, nutritionniste, et à Madame Belli.